France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Depuis 15 ans, nous tentons de rendre compte des générations de solutions qui germent et grandissent partout en France et au-delà. Associations, coopératives, fondations, nouvelles entreprises très locales mais très novatrices qui participent à l'intérêt général sans s'inscrire pour autant dans une grande économie à capitalisation excessive. La plupart appartiennent à une économie sociale et solidaire, sorte d'hydre à mille têtes que d'aucuns essaient de contrôler pour mieux faire advenir ce mouvement de fond. Mais qu'en est-il de cette économie aujourd'hui ? Pour en parler sans langue de bois, nous faisons appel à Thierry Jantet, observateur avisé de la chose.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Thierry Jantet, bonjour.
Bonjour.
Ça fait un petit moment que je vous avais pas vu, mais je vous ai lu.
Je suis ravi d'être ici.
Thierry, engagé depuis très longtemps dans l'économie sociale et solidaire, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, paru il y a quelques mois, mais toujours d'actualité et pour cause, c'est l'économie sociale et solidaire, la clé des possibles, aux éditions Les Petits Matins. Pourquoi toujours d'actualité? Parce que d'abord, à partir d'aujourd'hui, pendant 3 jours, s'ouvre le Forum National de l'ESS et l'Innovation Sociale.
Oui, tout à fait, à New York.
Le mois prochain, le mois habituel de l'ESS. Et vous avez bénéficié d'un prix sur l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est pas par politesse, vous posez les bonnes questions. Et en particulier sur la place de l'ESS vis-à-vis d'une certaine population, entre autres des jeunes. Oui. Alors, ce qui ne m'étonne pas, c'est que les jeunes qui pourraient être intéressés sont pas très bien informés. C'est la faute à qui, monseigneur ?
Alors, je crois que à l'origine, c'est un peu beaucoup la faute de l'économie sociale et solidaire qui se disait « vivons heureuses, vivons cachées ». Ça a marché un certain temps. Ça fait quand même aussi un certain temps qu'on est dans le monde des échanges, de la communication, d'Internet. Et là, l'économie sociale n'a pas pris d'avance, si j'ose dire. Alors, on voit des jeunes qui s'engagent dans des start-up qui sont de plus en plus conventionnels. C'est-à-dire qu'ils se laissent absorber par le système dominant, capitaliste pour simplifier, parce qu'ils n'ont pas réfléchi effectivement à la façon dont ils pouvaient, dans la durée, réellement partager leurs valeurs. Je crois que c'est ça qu'il faut que l'économie sociale et solidaire explique plus que jamais. Elle n'est pas un phénomène spot, elle est un phénomène durable. C'est pas pour rien qu'elle est née dans les années 1848 oui. Et nous sommes en 2021. Mais surtout, il faut savoir que les entreprises créées par l'économie sociale ont une durée de vie en général supérieure à celle des entreprises traditionnelles.
On me demande souvent, mais dites donc, que deviennent vos candidats qui passent dans les carnets de campagne? Je dis, 70%, ils se portent très bien. Et quelques années plus tard, on découvre qu'il y a une extension d'activité, il y a de nouveaux emplois créés,
absolument.
De nouvelles antennes, de nouvelles filières.
Exactement. L'économie sociale est en train de passer à un stade de savoir grandir. Soit, effectivement, grâce à des expériences, micro-expériences qui durent, mais qui font tâche au bon sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il se multiplie. Il y a quand même une tradition nouvelle dans l'économie sociale qui consiste à savoir ce qui se fait, est-ce reproductible. Et quand ça l'est, effectivement, les réseaux se mettent à fonctionner. Ceux des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, et celui du...
Je ne les vois pas souvent avancer, si je peux me permettre,
mais,
les gentils.
Non, mais je préside la fondation AG2R mondiale. Et une des conditions qu'on pose, justement, au financement, c'est, imaginez-vous que ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire est reproductible. Et on en fait une condition. Et c'est très important, parce que c'est une façon pour que l'économie sociale grandisse. Et puis, c'est une façon de gagner du temps. Pour ceux qui ont des idées.
Mais excusez-moi, certains n'ont pas envie de grandir. Ils veulent d'abord conforter leur emploi. On voit souvent que les emplois dans l'économie sociale et solidaire sont des emplois très fragiles, sinon précaires.
Alors, il y a toutes sortes d'emplois dans l'économie sociale et solidaire dans la mesure où, effectivement, elle balaie à l'horizontale presque toutes les activités humaines. Alors, vous avez raison, nous savons très bien les uns et les autres que, particulièrement dans le monde associatif, il y a effectivement des zones fragiles. D'ailleurs, on se réjouit de ce point de vue-là que les mesures qui ont pu être prises par le gouvernement actuel aillent plutôt dans le bon sens. Et notamment, je prends un exemple très concret, c'est le rétablissement des PTCE, des pôles territoriaux. Pourquoi ?
De coopération économique.
Parce que quand il y a PTCE, il y a aussi possibilité de s'appuyer les uns sur les autres, de ne pas être isolés. Or, la fonction de l'économie sociale, c'est justement la convergence entre les actions.
Il y a eu des promesses, les temps passés, que vous connaissez bien. En particulier, les pôles territoriaux de coopération économique, le principe, c'était une attribution de 30 000 euros par an sur une durée de 3 ans, dans le cadre de développement de ces regroupements de savoir-faire et d'entreprises. Il y en a eu combien en France? Si peu par rapport à la demande.
Et n'oubliez pas que, je ne nommerai personne, mais qu'il y a eu une période où l'aide au PTCE a été coupée.
Stoppée.
Elle reprend maintenant, il faut s'en féliciter. Mais je note aussi que grâce à l'appui de communautés de communes, voire de parcs régionaux, il y a des PTCE qui portent ce nom ou qui ressemblent à des PTCE qui se sont développés d'eux-mêmes. Je crois que c'est effectivement un mouvement à reprendre. Et j'insiste sur le mot convergence. Je crois que l'économie sociale et solidaire est le fil rouge des nouvelles convergences. Je crois que si on veut répondre aux problèmes politiques avec un grand P, aux problèmes de société tels que nous le connaissons, il faut favoriser les convergences d'actions. Et l'économie sociale et solidaire, partenaire facilement de collectivités locales, des régions, voire de l'État, partenaire du monde syndical, partenaire, on l'oublie trop souvent, des entreprises indépendantes, je pense au secteur agricole, je pense au secteur de l'artisanat par exemple, et là justement pour faire converger les efforts, les moyens, et donc donner du résultat durable.
Une actualité à partir d'aujourd'hui, pendant 3 jours, donc le Forum national de l'ESS et l'innovation sociale à Niort. Et puis une autre actualité, le livre de Thierry Jeantet, Économie sociale et solidaire, la clé des possibles. Je reviens quand même à ce qui dérange parfois les tenants de l'ESS, parce que j'ai eu quelques dialogues, parfois un tout petit peu...
Un peu rude
sur... Alors, vous citiez l'exemple de start-up. On va parler d'innovation. On m'a dit, mais l'innovation, mais c'est un corps étranger au monde de l'économie sociale et solidaire.
C'est un corps constitutif, pardonnez-moi, de l'économie sociale.
Merci.
Constitutif. Depuis l'origine, n'oublions pas, les premiers coopérateurs de production ont dit pourquoi nous voulons créer une coopérative indépendamment des entreprises traditionnelles. Parce que l'intelligence de la main, nous l'avons. Et c'est nous qui innovons. Et c'est pour ça qu'on va se mettre ensemble pour créer des coopératives. Faut jamais oublier ça. Regardez dans le secteur social ce qui s'est passé depuis des décennies. Qui a organisé les premières réponses aux demandes des handicapés et des familles de handicapés? C'est le monde associatif. Si vous regardez d'autres maladies qui se sont développées, vous rendez compte que les communautés pour répondre à ces diverses maladies ont souvent été les associations et puis évidemment en relais d'une certaine façon les mutuelles. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles innovations qui se portent. Je pense à ce que fait Enercop en matière d'énergie verte. Regardez ce que fait Relcop. C'est une réinvention, c'est une réinnovation.
On les a présentés avec cette ligne.
Avec cette ligne.
Cette ligne citoyenne, ligne ferroviaire citoyenne.
Si vous prenez Mobicop, c'est de l'innovation dans le domaine de la mobilité. Si vous prenez Telcop, c'est de l'innovation, c'est une façon de réinventer la téléphonie mobile, si je veux dire. Donc, l'innovation de l'économie sociale, elle est depuis l'histoire dans le monde social, mais aussi, ne l'oublions pas, dans le monde agricole et dans le monde de la pêche, elle est aujourd'hui sur des terrains complètement nouveaux. Et je me félicite, de ce point de vue-là, que ces initiatives, qui paraissent dispersées comme ça, cherchent à se regrouper. Et je trouve très intéressant de suivre la constitution de l'ICO-ORN, créée justement par Mobicop, Telcop, Enercop, etc., visant à regrouper leurs efforts, car c'est vrai qu'ils s'adressent à la masse des citoyennes et des citoyens, donc ils ont l'intelligence de se dire « faisons-nous connaître ensemble et devenons, d'une certaine façon, une sorte de puissance, mais une puissance coopérative et mutualiste ».
Je sais que je vais vous énerver, Thierry, parce que je me dis qu'il y a un petit problème, et vous dites « mais c'est le problème récurrent, c'est à chaque fois en discussion, et on tourne autour, et on ne trouve aucune solution ». C'est le nom, c'est l'économie sociale et solidaire.
Alors d'abord, si vous prenez, je regardais certains sondages qui sont faits autour d'entreprises, d'économie sociale, et je voyais par exemple dans le monde de l'assurance, et dans le monde de la prévoyance, que le taux de confiance vis-à-vis de ces mutuelles est de 70%.
Oui, mais c'est pas sous le baptême de oui. l'ESS. Il y a une relation de confiance
oui.
par bah, les rendus, l'effectif, par
rien.
La durée.
C'est pas rien. N'oublions pas hein, que plus de 30% de l'assurance dans le monde est assurée par les mutuelles et les coopératives d'assurance. C'est pas un petit détail.
Non, c'est pas rien.
Si vous prenez les entreprises coopératives traditionnelles, je parle pas de l'assurance, etc., les entreprises de production, etc., 3 millions d'entreprises dans le monde qui représentent 2100 milliards de dollars, entre guillemets, de chiffre d'affaires. Il y a plus de 12% de la population qui sont touchés uniquement par les coopératives, sans tenir compte du monde associatif et mutualiste. C'est quand même une réponse.
Mais qu'est-ce qui manque pour que les choses s'améliorent?
Alors,
qu'on ait une meilleure
bougent.
Visibilité?
Les choses
c'est
bougent.
Le bon interlocuteur? Le bon porte-parole?
L'économie sociale et solidaire, non, un peu trop long, d'accord, ne s'auto-focus pas suffisamment, ne met pas assez les projecteurs sur elle-même. Et d'ailleurs, elle est peu propriétaire de journaux. Évidemment, il y a Alternative économique, il y en a d'autres. Mais il lui manque quelques instruments puissants. Elle commence à utiliser beaucoup plus Internet et les plateformes, etc. Il est temps. Mais je réponds sur un autre terrain. L'économie sociale est prise en compte de plus en plus par des pays très différents. Je pense au Maroc, qui redresse son monde artisanal grâce aux coopératives artisanales. Si vous prenez un pays très libéral, comme la Corée du Sud, ben vous vous rendez compte qu'il y a toute une série de villes, y compris la capitale, qui ont développé des programmes d'économie sociale dans leur quartier. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience et une sorte de renversement des logiques, je dirais, d'une certaine façon. Et j'aurais pu prendre des exemples différents, comme au Costa Rica ou ailleurs. Donc, je crois que malgré les difficultés, il est intéressant de noter que les femmes et les hommes qui sont à la tête de mairies, de régions et même parfois d'États se disent « mais après tout, ce qui correspond le mieux aux objectifs de développement durable, c'est cette économie qui est à la fois dans le monde concurrentiel et à la fois à les pieds dans le monde quotidien, hors marché, je dirais ».
Thierry Gentet, Économie sociale et solidaire, la clé des possibles, aux éditions Les Petits Matins, parce qu'on dit souvent, c'est mon livre de chevet, ça veut dire vous vous endormez avec ce bouquin.
Non, là on se réveille.
Là c'est un livre de réveil justement, et c'est le cas. Merci Thierry.
Merci beaucoup.
J'en profite aussi pour vous donner des nouvelles de Railcoop que nous avons évoqué, première société coopérative de France dédiée au ferroviaire qui est représentative des difficultés d'émergence de solutions alternatives. Ainsi, en septembre dernier, Railcoop annonçait l'obtention de sa licence d'entreprise ferroviaire, ce qui laissait espérer le transport de voyageurs sur la ligne Bordeaux-Lyon dès juin 2022 seulement. Un mois plus tard, la même coopérative se voyait contrainte de repousser de 6 mois cette mise en service par un retard d'attribution de sillons, ce sont les créneaux de circulation de qualité en dépit des discussions engagées depuis 18 mois avec SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructures. En attendant, la coopérative va lancer quand même une ligne de fret entre Toulouse et Decazeville à la mi-novembre. Première étape dans la prise en charge citoyenne de l'utilisation du transport ferroviaire. Railcoop.fr. Et puis, concernant le Forum national de l'économie sociale et solidaire qui s'ouvre aujourd'hui à Niort, il y a un site dédié. C'est forum-ess.fr. Comme ça, vous aurez le programme des débats et des quelques 150 ateliers participatifs prévus pour ces 3 jours.